Vous êtes sur RTL.
7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn.
Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Bonjour à vous, Agnès Buzyn.
Bonjour, Elisabeth Martichoux.
Si vous permettez, faisons d'abord un sort à ce léger différend qui vous a opposé ce week-end à Martine Aubry. Elle vous a accusé d'un manque de courtoisie républicaine tout à fait élémentaire parce que vous ne l'auriez pas prévenu, Martine Aubry, de votre visite au CHU de Lille. Et elle vous a passé, en même temps qu'à Nicole Belloubet, ce qu'on appelle un petit savon, quand même. Vous avez manqué de courtoisie républicaine.
Nous avons vérifié, évidemment, Madame Aubry avait été prévenue une semaine avant. Le préfet a suivi les protocoles habituels. Donc, voilà, je pense qu'elle s'est émue de ne pas recevoir un coup de téléphone personnel. Moi, je suis triste que cet événement, enfin, cet incident, n'ait pas permis de parler du sujet de la visite, qui est la première ouverture en France et dans le monde d'un centre de recherche dédié à la prise en charge des victimes de psychotraumatismes, victimes d'attentats, victimes de violences sexuelles ou victimes d'événements traumatiques. La France est très en avance sur la prise en charge des psychotraumatisme, du fait malheureusement de notre histoire douloureuse en termes d'attentats de masse. Et nous avons financé pour plus d'un million d'euros cette année l'ouverture de ce centre de recherche qui est à Lille.
Qui était une promesse faite après les attentats de 2015, hein, il faut le dire. Et Mme Rudetsky est d'ailleurs partie prenante, je crois, dans l'élaboration de ce centre absolument unique au monde. Mais donc, cette affaire, cette petite affaire, je ne sais pas comment vous la qualifiez d'ailleurs, ça a un peu saboté votre affaire, à vous, votre visite.
J'ai vu qu'au lieu de parler d'une réussite française avec un vrai effort mis sur la prise en charge de victimes d'attentats, nous ayons parlé pendant 48 heures de l'humeur de Mme Aubry, qui par ailleurs a été une très grande ministre des Affaires sociales et qui est une maire d'une immense ville.
Donc une grande ministre de la Santé.
Voilà, mais bon, je trouve ça dommage, car ça a totalement éteint l'objet de la visite, qui était un objet dont on peut être fier en réalité, puisque tous les pays nous regardent faire.
Mais pour finir, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle n'a pas le sens de l'intérêt de sa ville, Martine Aubry, pourquoi elle a fait ça? Pour se faire un peu de pub sur votre dos?
Je ne sais pas, il faut lui demander, Madame Martichoux, pourquoi est-ce qu'elle a préféré mettre l'accent sur la venue des ministres et un coup de téléphone plutôt que sur un centre dans son hôpital, dans sa ville, financé par l'État pour plus d'un million d'euros. Je trouve ça dommage.
Votre décision sur les tarifs hospitaliers, Agnès Buzyn, est très attendue. Depuis plusieurs années, ils sont en baisse. Alors, les tarifs hospitaliers, ce n'est pas ce que payent les malades. C'est ce que facturent les hôpitaux à la sécurité sociale. C'est important puisque, précisément, les hôpitaux sont financés principalement par la Sécu. Pour 2019, quelle est votre décision ?
Alors, il est vrai que les hôpitaux souffrent depuis plusieurs années d'une baisse de leurs tarifs, ce qui a évidemment mis énormément de pression sur les personnels, sur leur capacité d'investissement, sur leur capacité d'achat de matériel. Et je dois le dire, pour la première fois, nous allons augmenter ces tarifs. C'est une décision historique, puisque depuis 10 ans, ces tarifs sont en baisse régulière. Ça là a entraîné, vous le savez, beaucoup de difficultés dans l'hôpital public, comme privé d'ailleurs. Et nous pouvons annoncer aujourd'hui que les tarifs seront en hausse de 0,5%. Cela va aboutir à 250 millions supplémentaires pour l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique, et de 100 millions supplémentaires sur la psychiatrie. Au total, cette année, l'hôpital verra son budget passer de 80 milliards d'euros à 82 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 milliards d'euros supplémentaires par rapport à l'année dernière.
Ça va desserrer l'étau budgétaire dont souffrent les hôpitaux depuis effectivement des années. Ça permettra quoi, pour donner une idée, comme marge de manœuvre? Ça peut par exemple éviter des fermetures de ligne, ça permet quoi?
Cela va permettre, par exemple, de réinvestir, d'acheter parfois du matériel plus neuf, de réinvestir dans des locaux. Ça va arrêter de mettre une pression sur les professionnels qui sont souvent par exemple quand un hôpital n'a pas les moyens de prendre un intérimaire pour remplacer un médecin ou une infirmière manquante. Donc tout cet étau permanent sur l'hôpital va pouvoir être desserré cette année. C'est la première fois depuis 10 ans. C'est une façon de reconnaître les efforts qui ont été faits à l'hôpital pour améliorer la rentabilité, on doit le dire, et ça va nous permettre aussi de commencer cette transformation du système de santé en réorganisant la médecine de ville et en permettant aux hôpitaux de se restructurer.
C'est possible budgétairement ? Malgré les 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table en décembre par le président et dont beaucoup pèsent sur la dépense sociale, évidemment, la dépense publique, déjà.
Donc nous restons dans l'épure, c'est-à-dire dans l'enveloppe qui a été votée par le Parlement pour l'assurance maladie. Nous faisons un effort considérable où nous mettons la pression sur les prix des médicaments. Et donc il y a des économies qui sont faites sur les prix des médicaments. Les industriels ne sont pas contents, mais ça nous permet de dégager des marges de manœuvre, notamment pour les hôpitaux. Je pense que c'est une annonce qui était très attendue. Non seulement nous arrivons pour la première fois à ne pas baisser les tarifs, mais nous les augmentons.
Il y aura donc de nouveau des remboursements de médicaments ?
Non, vous savez, les déremboursements sont liés à des évaluations scientifiques par la Haute Autorité de Santé. Donc, ça n'est pas des choix de dérembourser. Quand je dis qu'il y a une pression sur les prix, ce sont des négociations de prix avec les industriels sur des médicaments remboursés.
Et ça a un effet sur la pénurie de médicaments, qui est un phénomène de plus en plus fréquent et qui, dans certaines pharmacies, il y a carrément plus de médicaments dans certains tiroirs. C'est assez spectaculaire. Ces dernières années ?
Alors, c'est vrai que ça s'est accéléré, c'est vrai dans tous les pays du monde, et les causes sont multiples, donc il faut agir sur différents leviers. Parfois, c'est un manque de matières premières pour produire un médicament. Parfois, les industriels n'ont qu'une usine de production, et donc s'il y a un incendie ou un problème technique, tout d'un coup, la production s'arrête. Et parfois, des médicaments sont compliqués à produire, notamment les vaccins, c'est compliqué, c'est très très long à produire, et donc de temps en temps, quand il y a un accident de parcours, il peut y avoir une pénurie, et dans ce cas-là, ils choisissent effectivement parfois de livrer les médicaments dans les pays qui payent le plus cher.
Donc, effectivement, les laboratoires sont quand même en première ligne dans ces conséquences.
Absolument. Donc nous travaillons avec eux pour les obliger à avoir des plans de gestion des pénuries et de nous montrer qu'ils sont en capacité toujours de résoudre les problèmes. C'est un travail qui est fait entre l'Agence du médicament et les industriels.
Rien à voir, Agnès Buzyn. Est-ce que Marine Le Pen a déposé plainte contre vous pour injure. Vous avez dit il y a une dizaine de jours que dès que Marine Le Pen pouvait aller en Autriche ou à Bruxelles avec tous les néo-nazis ou les mouvements d'extrême droite, elle y court. Fin de citation. Elle a annoncé une plainte. Est-ce qu'elle l'a déposée ?
Pas à ma connaissance.
Pas à votre connaissance. Vous regrettez d'avoir dit ça ? Vous maintenez, elle fraye avec les néo-nazis à Bruxelles et à Strasbourg ?
Moi, je pense que quand on est un homme ou une femme politique, il faut être cohérent. Je pense que les Français ont besoin de sincérité. Et donc, je pense qu'il faut impérativement que les actes soient conformes aux paroles. Voilà, je trouve qu'il y a dans le parti du Front National des personnes issues de groupuscules d'extrême droite, et que quand on parle d'antisémitisme, il est très important de faire une forme de ménage. Je ne veux pas polémiquer parce que je ne pense pas que Madame Le Pen elle-même ait des choses à se reprocher sur l'antisémitisme. Je ne le sais pas. En tous les cas, elle n'a jamais prononcé de mots ou de dérapage comme son père. Mais voilà, j'ai simplement parlé de cohérence.
De cohérence et d'entourage de Marine Le Pen. Donc la formulation était peut-être excessive pour Marine Le Pen qui peut aller en Autriche et à Bruxelles avec tous les néo-nazis ou les mouvements d'extrême droite.
J'avais en tête des photos.
Vous aviez en tête des photos où on la voit côte à côte avec des personnes qui peuvent être assimilées à des néo-nazis. Dans les sondages, La République En Marche n'est pas effondrée sous l'effet des Gilets jaunes. Selon Harris, le sondage que nous publions hier avec LCI et Le Figaro, il devance le Rassemblement National de peu. C'est le duel de la présidentielle qui va se rejouer le 26 mai ?
Possiblement. Je pense par contre que les enjeux ne sont pas les mêmes. Là, il s'agit de reconstruire l'Europe. Nous savons que l'Europe est notre avenir. Nous savons que seuls, nous ne pourrons pas survivre dans la mondialisation. Nous sommes un petit pays. Je compare souvent la France, c'est 66 millions d'habitants. Nous représentons deux villes nouvelles chinoises. deux villes nouvelles chinoises. Donc c'est rien. Et donc, si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord entre Européens, vous me regardez, oui. Mais oui, les villes chinoises nouvelles, aujourd'hui, elles font 30 millions d'habitants. Donc nous sommes peu de choses. Et donc, si nous n'arrivons pas à trouver des alliés et à faire vivre nos valeurs communes de liberté, de tolérance, ce sont les valeurs européennes, elles ne sont pas partout partagées dans le monde, nous risquons malheureusement d'en souffrir et nos enfants vont en souffrir. Donc pour moi, l'Europe est un enjeu évidemment.
L'Europe vous tient à cœur ? C'est un combat qui vous tient à cœur ?
J'ai voté pour le président de la République en partie et en grande partie pour son combat européen. L'idée d'une Europe forte et rénovée pour qu'elle s'adapte en fait aux souhaits des citoyens européens, qui est une Europe sociale, une Europe de la protection et qui ne soit pas uniquement une Europe de marché. Donc oui, l'Europe
m'a toujours intéressée. Si Emmanuel Macron vous demande d'être tête de liste européenne pour la liste,
d'abord, il
est-ce
ne
que
m'a
vous
pas demandé.
Non, mais est-ce que si vous le demandez, est-ce que c'est une mission qui vous intéresserait?
Il ne me l'a pas demandé. J'ai aujourd'hui une loi de santé qui passe au mois de mars. J'ai des très belles lois portée. Après, circulent des noms dans la presse, ce sont des spéculations, vous le savez, c'est comme ça que fonctionne la politique. Ça veut aussi dire...
Non, mais vous avez le droit de dire si cette bataille vous intéresse ou pas.
Vous me permettrez, Madame Martichoux, de ne répondre à la question que si un jour elle m'est posée, ce qui n'est pas le cas.
Tant qu'elle n'est pas posée, vous ne voulez pas y répondre. Or, vous dites qu'elle n'est pas posée maintenant.
Même pas y réfléchir.
Même pas y réfléchir.
Non. Bon, j'ai une loi de santé, vous savez, j'ai la loi de transformation du système de santé à passer devant les parlementaires le 18 mars et je suis très très occupée par évidemment un sujet majeur.
Donc pour l'instant, vous ne voulez pas dévoiler votre état d'esprit par rapport à ces spéculations, comme vous dites, qui courent sur votre candidature. Décathlon a confirmé, selon le Figaro, vendre à partir de fin mars sur Internet un voile islamique. Le hijab, c'est un voile qui dissimule le visage et les cheveux, c'est dissimulé aux femmes musulmanes. Décathlon, fleuron du commerce français, qui finalement emboîte le pas d'autres entreprises comparables, comme Nike par exemple. Quelle est votre position? Est-ce que ça pose un problème?
Je ne pense pas que ce soit interdit par la loi. Après,
non, c'est légal, le commerce.
Voilà, c'est légal. Donc, c'est légal. Cependant, voilà, c'est une vision de la femme que je ne partage pas, évidemment. Hein, vous l'imaginez bien. Si on souhaite l'égalité femmes-hommes, ça n'est pas pour que les femmes cachent leur visage. Je trouve que ça ne correspond pas bien aux valeurs de notre pays. Après, ça n'est pas interdit.
Oui, le voile est un signe pour vous, incontestablement, d'infériorisation, un outil religieux d'infériorisation de la femme.
En tous les cas, en tant que femme, c'est comme ça que je le vis. Et je suis très 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 favorable à l'émancipation des femmes, leur liberté et leur égalité face aux hommes. Donc voilà, tout ce qui peut amener à une différenciation me gêne.
Donc votre position, pour finir, c'est la dernière question. Votre position est finalement pas très tranchée.
Non, ma position, c'est que j'aurais préféré qu'une marque française ne promeuve pas le voile. Après, il est évidemment permis et on sait bien que la laïcité en France permet le port du voile et c'est très bien et c'est notre société.
Mais la laïcité n'est pas en danger avec ce type de commerce ? C'est ça la
non,
question,
elle n'est pas en danger. Des femmes qui portent le voile l'ont choisi, que ce soit dans le cadre du sport ou pas. Mais voilà, personnellement, je n'ai pas envie qu'on favorise la différenciation entre les femmes et les hommes.
Agnès Buzyn qui annonce qu'elle desserre l'étau budgétaire sur l'hôpital ce matin sur RTL. Merci.
Merci beaucoup à l'une et à l'autre. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, c'est la météo avec Marina Giraudot.